Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 54. C'est l'épisode du bilan de fin de saison chez les Canadiens ce mercredi 17 avril. On salue les gars de la presse qui sont avec nous, Simon-Olivier Larange. Salut Simon-Olivier.
Salut Jérémy.
Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre.
Salut JR.
Pour le 98.5 FM, Stéphane White. Salut Steph.
Salut les gars.
Bon les gars, je suis convaincu que tous ceux qui nous écoutent présentement ont entendu en long et en large le point de presse des différents dirigeants du Canadien, de Martin Saint-Louis, des joueurs. Fait qu'on passera, on va revenir là-dessus, mais moi je veux avoir votre bilan à vous de cette saison du Canadien qui s'est terminée par cette défaite en prolongation face aux Red Wings de Détroit. Le Canadien qui cette saison a 30 victoires, 36 défaites et 16 défaites en bris d'égalité, un grand total de 76 points. Au moment où on écrit tout ça, ou pas on écrit tout ça, mais avec les gars de la presse, mais au moment où on enregistre le balado, le Canadien est 27e, dépendamment de l'Arizona qui affronte ce soir les Oilers d'Edmonton.
C'est excitant.
Par miracle, si l'Arizona gagnait, va devancer le Canadien de Montréal. On deviendrait 28e du côté de Montréal.
Hey, l'Arizona a une bonne fin de saison. Là.
Dernier match d'Arizona, peut-être ce soir, il peut avoir une motivation supplémentaire.
C'est quand même les Oilers, hein?
Je pense qu'ils ont battu les Oilers très récemment.
Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce que les Oilers vont habiller tous leurs joueurs ce soir?
Écoute, que de questions. Oui. Hey, je fais un tour de table. Je commence avec Simon Olivier. Ton bilan, toi, de cette saison-là, Simon Olivier?
Je vais dire mieux, mais pas tant que ça. Ça serait mon titre. Puis c'est tout. C'est tout ce que je dis. Il y a eu des améliorations. Il faut se rendre à l'évidence. Puis je veux dire, ils ne sont pas difficiles à trouver. Juraj Slafkovský, on n'a même pas besoin d'aller plus loin. Juste Juraj Slafkovský, c'est en soi une amélioration exceptionnelle. Nick Suzuki s'est établi comme un centre de qualité de la Ligue nationale. Cole Caulfield a ajouté des cordes à son arc. Samuel Motombo a eu des bons moments. S'est établi comme un probable. En fait, même Kent Hughes l'a nommé comme étant son numéro un pour l'automne. Mike Matheson a fait plus de 60 points, ce qui est une rareté. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'éléments positifs. Caden Goulet s'est amélioré aussi. Mais collectivement, pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de lacunes collectives. Je trouve que le tout, des fois, est... En fait, j'allais dire qu'il est pas aussi bon que la somme de ses parties, mais c'est pas vrai parce que là, j'ai dit les bonnes parties, mais beaucoup de parties ordinaires qui étaient dans la composition de l'équipe cette année. Et ça a pesé lourd, justement, dans le bilan ou les résultats de la saison. Et là, je sais que c'est mal de parler des résultats, mais néanmoins, c'est une équipe qui a peiné à marquer des buts, qui a été très généreuse en défense. L'avantage numérique, il y a eu une espèce de buzz de 20 matchs, puis après ça, ils n'ont plus rien fait. Le désavantage numérique, il y a eu une meilleure fin de saison, mais pour l'ensemble de la saison, c'est ordinaire. Là, à un moment donné, on accumule, puis même si l'entraîneur et le DG disent qu'ils adorent le jeu collectif de leur équipe, ben moi, je vois pas tout à fait
la même
chose.
OK, mais là, attends, Simon-Olivier, tu es en train de dire que c'est pas positif, là?
Ben, je dis, il y a du positif. Okay. Alors, c'est pour ça que j'ai dit mieux, mais pas tant que ça.
Okay.
Voilà.
Là, ça va me prendre des explications. Pourquoi c'est pas positif?
J'aime pas ce que tu fais, là. Ça réveille plein de souvenins d'il y a trois heures.
Simon-Olivier, t'as fait un excellent boulot. T'as retourné ça. Kent Hughes, qui est arrivé dans le point de presse, et Simon-Olivier faisait référence, justement, au dernier rang des buts accordés, à l'avantage numérique avec quelques difficultés. Et, Kent Hughes regarde Simon-Olivier puis dit, ouais, mais, tu sais, toi, tu trouves pas, en nous regardant, qu'on est meilleur que l'an passé? Juste à cette question-là, est-ce que tu trouves sur la glace que le Canadien offre une meilleure opposition que l'an passé en regardant les matchs?
Je vais dire oui, mais pas tant que ça. Je reviens à oui, mais pas tant que ça.
OK.
C'est pas... Tu sais, combien de fois on a vu le Canadien complètement désorganisé en défense? La fameuse couverture hybride...
Ça arrive à tous les matchs. Hein?
C'est ça, exactement. C'est pas quelque chose qui est arrivé une fois de temps en temps. Je comprends que le Canadien s'est pas fait donner des volées coup sur coup cette année. Mm-hmm. Probablement moins que l'année passée. Mais pis c'est Stéphane qui a ramené ça souvent cette année. Puis j'étais très d'accord avec lui. L'organisation, pis c'est une équipe qui était souvent désorganisée. Puis quand on parlait du... Mon Dieu, j'ai l'impression que je fais un long monologue.
Je veux que
les autres parlent. Mais quand on parlait de fameux se rapprocher des grandes équipes, ben cette année, contre les Hurricanes de Caroline, le Canadien n'était pas capable de cadrer un tir en troisième période. Quand il jouait contre les Rangers, il se faisait dominer, même si le pointage n'était pas nécessairement un pointage de domination. Contre les Islanders, une équipe de milieu de peloton, le Canadien s'est fait étouffer deux fois. Fait que ça commence à faire un volume de matchs intéressant. Le Canadien n'était pas si hot que ça. Alors, je reviens à mon thème qui est mieux, mais pas tant que ça. On a l'impression, tu sais, on dirait que dans le discours ambiant, c'est quand on se rapproche, puis là, les séries, l'an prochain, il reste beaucoup, beaucoup d'ouvrages.
OK. Je vais aller à Stéphane. Et Stéphane, je vais avoir ton bilan de cette saison-là, mais je veux t'apporter un point que Martin Saint-Louis a amené dans son propre bilan après la défaite du Canadien hier face aux Red Wings. Il a dit un point tournant dans la saison. C'était un match au mois de novembre contre les Bruins de Boston. Je pense que le Canadien avait pris les devants 4-0. Je pense que c'est ça. Puis il a perdu 9-5 ou quelque chose comme ça. Puis il dit, dans ce match-là, je me suis rendu compte qu'on était mauvais en échec avant. On a amélioré l'échec avant et ça nous a rendu plus compétitifs. À partir de là, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé? Puis quel bilan que tu fais de cette saison-là chez les Canadiens?
Oui, mais écoute, oui, je suis d'accord avec Martin Saint-Louis sous ce côté-là. C'est vrai que les échecs avant ont tout le temps été très, très, très bons, j'ai trouvé. Ils ont beaucoup de rapidité. Les gars se présentaient, les gars travaillaient fort. Mais il reste que j'ai rarement vu une équipe de 27 ou 28e position être aussi « tout va bien, tout le monde est heureux, on s'aime, on est bon, on s'en va à bonne place ». Écoute, il reste que t'es fini 27 ou peut-être 28 après le match de ce soir. T'es 26e les buts contre, t'es 26e les buts pour, t'es 27e l'avantage numérique, t'es 24e le désavantage numérique, t'es 28e pour les tirs pour, puis t'es 29e pour les lancer contre. Il me semble que si bol, mais t'écoutes cette équipe-là ou t'écoutes tout le monde depuis un bout. C'est comme tabarnouche, c'est sûr que c'est une équipe des playoffs. C'est une équipe qui en principe, si tu regardes pas le classement et tu entends tout ce qui se dit, tu dis c'est certain qu'ils doivent être dans les 10 premiers au classement général.
Ah, mais il y a une catégorie dans laquelle ils sont premiers, Stéphane.
Laquelle?
Dans laquelle?
Des défaites en prolongation.
Oh, mais exact. Mais c'est ça. Des défaites en prolongation dans les séries, là, tu perds en 4. Et puis, mais. Moi, encore une fois, puis j'en ai parlé cette année, oui, je vois une amélioration du côté individuel. J'ai aimé Slavkovski, c'est sûr. J'ai aimé Goulet, j'ai aimé Matheson. Primo a prouvé qu'il peut jouer dans la Ligue nationale. Montembeau a monté de nos petites coches. Suzuki, quelle saison. Individuellement, je suis d'accord. Collectivement, moi, juste qu'il y a de l'ouvrage à faire. Et puis, c'est pas juste d'avoir de l'enthousiasme puis de travailler fort. Tu sais, je veux dire, je dis souvent, ma mère, elle travaille fort, elle, puis elle ne pourra pas jouer dans la Ligue nationale. Mais et c'est ça va prendre plus que ça. Et puis, écoute, c'est une équipe qui a fini quand même au différentiel moins 53. De beaucoup, beaucoup d'ouvrages à faire. Mais j'aime la jeunesse, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de positifs. Mais je suis d'accord avec Simon-Olivier. Mieux, mais pas tant que ça.
OK, parfait. Alexandre Pratt?
Moi, je dis mieux qu'hier, moins bien que demain. T'sais, donc, ils s'en vont dans la bonne direction. La question, c'est, ils vont-ils assez rapidement? Puis, est-ce qu'ils progressent suffisamment? Pour l'instant, je pense que non. Je trouve qu'il y a beaucoup de positivisme dans le discours de l'équipe pour une équipe qui, je suis d'accord avec Stéphane, a terminé comme entre 25 puis 30e dans à peu près toutes les catégories possibles et inimaginables. Je peux concevoir qu'en effet, là, il y a des fleurs qui ont poussé dans le bitume là, à travers la saison. Suzuki, Matheson, Newhook, Slavkovski, bien sûr. Mais en fait, je trouve que c'est comme finalement, c'est comme on est dans la saison des plants, des semis là présentement. Là, okay? Là, c'est comme si on avait mis comme plein de semis là, dans plein de pots. Puis là, on voit lesquels poussent. Puis les plus forts poussent, puis les autres, ils restent dans le pot. Là, puis qu'on les voit pas sortir ou presque pas, ou ils meurent vite. Là. Je trouve qu'on commence à voir quels joueurs vont faire partie du noyau de l'équipe dans 3 ans, puis lesquels seront plus là. Puis autour, puis quels joueurs tu sais qui vont pouvoir jouer sur les deux premiers trios, puis lesquels joueront jamais sur les deux premiers trios à partir d'ici. Quels défenseurs on va garder, lesquels vont partir. Je trouve que c'était une saison qui nous en a donné beaucoup, en fait, et qui nous a beaucoup appris sur la qualité des joueurs. Puis à partir de ça, on va pouvoir se faire une meilleure tête, en fait, sur qui doit rester, qui doit partir, quelle est la valeur de chaque joueur. Mais quand je regarde ça au total, puis là, tu dis à partir de l'année prochaine, normalement, ils vont s'améliorer, fait qu'ils ne repêcheront plus dans les 5 premiers. Là. L'équipe qui est là présentement, là, plus Reinbacher, puis le joueur qui va être repêché cet été, c'est pas mal le noyau de ce que sera l'équipe qui, un jour, on veut qu'elle soit prétendante. Je vois cette équipe-là retourner en série ou d'être dans le top 15 dans les 3 prochaines années. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans les 3 prochaines années. Mais pour le moment, je la vois pas rentrer dans le top 10. Je pense que c'est une équipe qui est pas assez forte pour ça. Puis aujourd'hui, Hughes, d'ailleurs, a reconnu qu'on n'a pas la formation avec les joueurs actuels pour prétendre à la Coupe Stanley, puis il a pas
dit à long terme. C'est pas une surprise.
Non, mais pas présentement, mais à long terme. Non, mais à long terme, il dit, il manque encore des éléments, même à long terme, là, je veux dire, pour qu'on soit comme une équipe prétendante à la Coupe, ça va prendre des ajouts, ça va prendre plus de talent. Puis ce talent-là, ben, il viendra peut-être plus à partir du repêchage, à partir de l'année prochaine. Il va venir par le marché des joueurs autonomes puis des échanges. Le Canadien a beaucoup d'atouts, tu sais, beaucoup de choix au repêchage, beaucoup de jeunes, beaucoup d'espoir. Là, il va commencer à être temps qu'il bouge puis qu'il se renforce.
Ouais, on va en parler tantôt. On va parler de Jeff Gorton et de Kent Hughes qui ont dit justement on veut ajouter du talent offensif. On va revenir là-dessus. Mais Stéphane, tu voulais, j'ai l'impression que tu maugréais encore plus. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de côté négatif, puis c'est tout au niveau des stats collectives. Hein. Comme qu'on vient de dire, écoute, on est tous entre 26 et 30 dans toutes les catégories imaginables dans la Ligue nationale, point de vue équipe. Mais point de vue individuel, sont rares les joueurs qui ont déçu, sont très, très, très rares. C'est sûr qu'il y a Anderson, Harvey Pinard, Ilonen, pour moi, c'est trois gars qui ont eu une mauvaise saison, qui ont déçu. À part ça, les autres, ils ont égalé les attentes ou les ont surpassés, toutes les autres, dans mon livre à moi. Fait que c'est quand même, sont rares les joueurs qui ont eu une mauvaise saison, puis malgré ça, on est très, très, très loin pour moi encore. Ben,
ouais, OK, mais attends, Alexandre, je veux savoir comment t'expliques ça. Ouais. Quand tu dis qu'il y a peu de gars qui ont connu une mauvaise saison, mais on est quand même du côté du Canadien 27e, ouais. Comment t'expliques ça, Alexandre?
La seule façon de l'expliquer pour moi, c'est la jeunesse, manque d'expérience, parce que le talent est là, il n'y a aucun doute. Ils ne sont pas à tant de joueurs que ça d'être proches, d'être dans le mix ou de faire les séries. Mais c'est beaucoup de gars qui jouent bien, mais qui jouent pas bien collectivement.
Alexandre?
Non, moi, je pense qu'il manque de talent. C'est pour être un club, là, mettons, prétendant top 10 dans la Ligue, il manque encore beaucoup de talent dans cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui ont, somme toute, déçu individuellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de plafonds bas là-dedans. T'sais, il y a beaucoup de joueurs qui, dans une équipe prétendante, ne seraient pas, je veux dire, dans le rôle, dans la chaise dans laquelle ils sont présentement. Ils le sont par défaut parce que c'est une équipe dans laquelle tous les spots après le top 3 en attaque sont tous disponibles. Je veux dire, il n'y a pas de joueur établi présentement dans l'alignement. Tu dis, lui, c'est un joueur de deuxième trio, c'est sûr et certain, il n'y en a pas là, dans l'équipe.
C'est Doc.
Oui, mais il joue pas. Je veux dire, il est pas là présentement. Ouais, quand il va revenir au jeu, Doc, tu sais, parlons-en de Doc, mais tu sais, quand on parle de la saison, c'est très plate ce qui est arrivé. On peut pas dire que c'est une déception. C'est un accident là, qui est arrivé, mais lui, là, quand il va revenir au jeu, là, il va avoir joué deux matchs en 18 mois. Là. Mm-hmm. Ça fait plusieurs grosses opérations qu'il y a pour un gars de 23 ans. Soyons très prudents là, dans nos attentes pour la saison prochaine envers lui. Là, parce que, j'ai pas de souvenir d'un joueur, mettons, de 22-23 ans qui a subi autant d'opérations, qui a raté autant de jeux et qui soit comme un si bon prospect si jeune dans sa carrière. Il n'y a pas tant de précédents sur lesquels baser notre évaluation. Mm. Fait que ça, dans les bouts qui m'inquiètent, il y a ça. Dans les autres bouts qui m'inquiètent, Goulet, deux commotions cérébrales cette année. C'est un joueur aussi qui avait beaucoup raté de temps avant. C'est pas bon, là, je veux dire, d'être si souvent blessé, si jeune. Jack Eye, deuxième opération à l'épaule en un an. C'est pas la même épaule, je comprends bien, mais c'est un joueur physique. Les épaules, c'est quand même une partie fragile et importante. T'sais, donc, pour moi, il y a quand même dans cette saison-là, quand on parle de points un petit peu plus négatifs, mais t'sais, des blessures à des joueurs qui sont supposés être le cœur de ta formation pour les 5-10 prochaines années, mais des blessures à répétition, ça m'inquiète un petit peu quand même pour la suite des choses.
Simon Olivier?
Quand on sort sur la question, ils sont à combien de joueurs? Je pense pas qu'on va trouver le nombre exact ici aujourd'hui, ou en tout cas, on pourrait en débattre longtemps, mais moi, à mes yeux, le Canadien est à au moins 5, 6, 7 joueurs et plus d'être un club vraiment, tu sais, quand on disait se rapprocher des autres équipes, tu sais, présentement, puis je le prends froidement, de la formation du Canadien cette année.
Mais où, c'est 5, 6, 7 joueurs?
Moi, je pense qu'il manque deux attaquants dans le top 6.
Ça,
que ce soit des alliés ou, tu sais, ça fait deux. Je pense qu'il manque au moins un joueur de quatrième trio de qualité.
Défensif,
puis qui peut être un peu de grit défensif. Ouais. Je pense qu'il manque deux défenseurs. Je dis pas qu'ils existent pas dans l'organisation. Je parle de la formation de cette année.
Ok, mais
je pense
là,
qu'il manque deux défenseurs.
Tu parles-tu pour avoir un club qui compétitionne en série ou un club pour te rendre en série?
Un club pour compétitionne en série.
Je pense
que le Canadien a pas soit de premier duo si on décide que Matheson Goulet c'est un deuxième duo, ou pas de deuxième duo si on décide que c'est un premier duo, vice versa. Maintenant, fait que là, juste là, et je pense que je suis conservateur là dans c'est dans ma vision, David Savard est encore là. J'adore David Savard. C'est un gars qui fait beaucoup de choses de bonnes choses pour l'équipe. C'est le chouchou des journalistes parce qu'il est gentil avec nous, il est patient. David Savard, défensivement, il faut qu'il joue sur un troisième duo. Et je pense pas que David Savard, dans 2, 3, 4 ans, va être membre d'une équipe aspirante à la Coupe Stanley.
Il pourrait être troisième gardien de but chez Canadien.
Peut-être. Fait que, tout ça pour dire que juste là, c'est un survol très rapide. Alors, tu sais, si juste là, en jasant informellement, on est déjà à 5, 6, 7 joueurs qui manquent, ben là, de dire qu'on se rapproche des bonnes équipes, c'est toujours, je vais prendre l'analogie bien plate, là, si je pars maintenant de Montréal pour Québec à pied, je vais me rapprocher de Québec. je serai pas proche de Québec demain matin.
Non, mais il y a une question dans la vitesse de la progression qui doit être prise en compte et dont on parle peu de façon
générale. OK, attends. Oui, nous, on va en parler, on va revenir là-dessus. Stéphane, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus, là?
Non, je pense qu'à Défense, on a ce que ça prend dans l'organisation. Ils sont pas prêts en ce moment, mais je pense qu'on a, on a ce que ça prend dans l'organisation. À l'avant, là, écoute, les trois et quatrième ligne, là, ça, on a plein de joueurs de pour remplir ces rôles-là. Moi, c'est une deuxième ligne qu'il faut se construire. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, on n'est pas si loin que ça au niveau du nombre de joueurs.
OK, parfait. Numéro un. Puis là, je sors pas, mais j'ai fait des trios, moi. Moi, je suis prêt.
Vas-y. L'année prochaine, ben, les postes sont tous pris.
Sincèrement, là, je sais que Stéphane, toi, t'as mis Joshua Roy sur un deuxième trio. Moi, je suis pas encore convaincu. Le premier trio, je pense qu'il est établi avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Et là, je vais dire quelque chose, puis je touche du bois en même temps. Mais c'est super agréable d'avoir un premier trio qui fonctionne, mais tout ça est dû au fait que Nick Suzuki a pas manqué un match en raison de blessure.
Depuis plusieurs saisons.
Puis là, je touche du bois, mais ça va arriver un moment donné.
Les trois ont joué 82 matchs cette année.
Ouais. Tu sais, ça va arriver un moment donné qu'il y aura une blessure là-dedans, puis ça va prendre d'autres mondes, tu sais. Puis quand on va faire notre deuxième portion de balado, on va parler des enjeux, qu'est-ce qui s'en vient. Mais sincèrement, le gros de la job, c'est la direction, là. Ouais. Tu sais, t'as vu des gars qui ont éclos, là, tu fais waouh, c'est le fun. Mais tu sais, à un moment donné, mets quelque chose, mets un tuteur là-dedans, mais faut que ça pousse. Mets-y de la lumière, du soleil, de l'eau, parce que sinon, ta plante, elle poussera pas.
On va acheter des plantes déjà faites.
Encore, tu sais, va
acheter en plastique, là,
non, on avait une coupe de plantes en plastique.
Tu sais, les plantes de tomates, tu peux mettre une graine dans le sol ou tu peux acheter ton plant de tomate.
C'est ça, déjà fait.
Je pense que c'est là qu'Alexandre s'en allait.
Totalement.
On prend dans le temps des semis.
On va installer ça au marché Jean Talon, là, ça s'en vient. C'est ce qu'on fait. Saison,
hey, je veux savoir, les gars, on a appris aujourd'hui en point de presse également qu'on a utilisé l'option chez Canadiens pour une prolongation de contrat de deux autres saisons de Martin Saint-Louis. Donc, il y aura trois saisons de Martin Saint-Louis encore. Soit dit en passant, hier, il était en feu après le match contre les Red Wings. À un moment donné, on l'a senti, je fais pas l'analyse de son point de presse, là, mais au début, ça y tentait pas. À un moment donné, tu l'as vu, il s'est accoté le coude sur la table, puis s'est mis à jaser. Oh, pièce d'anthologie, il a dit de bonnes choses, tu sais, puis il parlait de l'émotion, puis il parlait de lui d'être frustré, puis il dit, tu sais, ça sert à quoi si moi je me frustre, tu sais, ça fait juste me servir moi-même, ça aide pas l'équipe. J'ai trouvé encore une fois qu'il était très, très bon. Bon, on dit prolongation de contrat, ça ferait trois ans encore de Martin Saint-Louis. Lui, lance, hier, dans le point de presse, on peut être dans le mix l'année prochaine. Expliquez-moi, là. Depuis tantôt, on est en train de dire qu'on est loin de Québec parce qu'on est à pied. Mais lui pense qu'on est dans le mix l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le coach. Il peut pas dire le contraire. Les directeurs.
OK, sincèrement,
c'est lui qui parle avec les joueurs tous les jours.
Je te reviens là-dessus. Lui a dit, je suis pas positif pour être positif. Ouais. Je vois des choses où je suis capable de bâtir sur quelque chose.
Ben, il faut qu'il y croie.
Il était pas obligé de le dire, là.
Non, mais c'est le coach. Je veux dire, non, il est pas obligé de le dire, mais j'ose croire qu'il le croit. Il est le coach. Je veux dire, lui, il a une vision. En fait, lui, il gère le court terme dans l'organisation, alors que ses deux boss gèrent le long terme dans l'organisation. Écoute, il faut qu'il y croie. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, ça fait partie de sa job de gérant de l'équipe, de motiver ses troupes, de leur faire croire qu'ils peuvent progresser rapidement. Puis même lui, je suis convaincu que lui-même est convaincu de ça. Tu sais, il a fait une évaluation très positive de son équipe quand même hier. Il y a eu des grosses blessures aussi cette année. Là, tu peux penser que l'année prochaine, ils seront plus là. Fait que, tu sais, je le comprends de voir un portrait positif. Si on se dégage un petit peu de l'arbre, là, puis qu'on regarde un peu plus la forêt, mais moi, je pense qu'il... Écoute, là, c'est très ambitieux. C'est pas impossible. Regarde, les Capitals viendront de rentrer en série avec un différentiel de genre moins 36, moins 37. Mais, tu sais, si tu mets un différentiel de zéro pour rentrer en série, le Canadien est comme quand même un différentiel de 50 buts à rattraper en un an. Ça me semble très, très, très ambitieux. Surtout qu'il n'y a pas tant de postes ouverts, tu sais, que ça, surtout en attaque.
S'il n'y a pas de transaction.
Exact.
Ça va être dur, je veux dire, de faire des...
Non,
ça,
mais dur, je comprends.
Mais il y a certaines transactions qui risquent d'être difficiles. Tu sais, par exemple, en partant, tu as deux gros salaires, qui sont Anderson et Gallagher, qui, à mon avis, ne seront pas passables ailleurs, qui sont sur tes troisième et quatrième trios. Tu as 4 millions de dollars qui est mis de côté pour payer Petrie et Allen pour qu'ils jouent pour d'autres équipes. T'sais, juste là, tu as genre combien? Tu as 15 millions à peu près de masse salariale que tu peux pas mettre sur des joueurs des deux premiers trios ou sur un top 4 défensif. T'sais. Alors, je pense que ça va être difficile pour la saison prochaine, mais je comprends Saint-Louis dire ça. Je veux dire, si je suis dans sa peau, c'est clair que c'est le discours que je tiens aussi.
OK, je veux savoir, Stéphane, est-ce que Martin Saint-Louis croit aux licornes ou ben donc, il t'a pas obligé de dire ça, lui? Comment tu vois ça?
Non, puis moi, j'y crois, moi aussi. Et... J'ai aimé qu'ils disent, Et puis, avec raison, je pense qu'il s'appuie sur des choses. Premièrement, écoute, on va être clair, là, ça y prend. Faut qu'il aille chercher 15 points de plus que cette année. Ils sont finis à 76. Le dernier qui sont rentrés dans les séries, Washington, 91. Donc, si je compte bien, c'est 15 points. Faut qu'il aille chercher 15 points de plus. Comment qu'il va aller chercher ces mots juste de 15 points là au classement général? Mais premièrement, je pense que la deuxième ligne peut pas être pire que cette année. On va, si, mais c'est sûr qu'il y a des si. Si Dak est en santé, ben déjà là, on commence à avoir une deuxième ligne qui va être moins pire que cette année. Donc, les autres avant, plus dans leur chaise. Le système de trois gardiens de but, Jake a été terrible cette saison. Donc, ça peut pas être pire dans le filet. Peut-être 3-4 victoires, 5 victoires de plus avec les gardiens de but. Après ça, on parle de tous les stats qui ont fini entre le désavantage numérique, l'avantage numérique, l'attaque, les buts contre. On peut pas être pire que l'année passée. Ça peut juste être mieux. Donc, tout ça mis ensemble, peut-être qu'on peut aller chercher le 15 points qui manque et d'être très proche. Je dis pas faire les séries, mais comme Martin Saint-Louis dit, être dans le mix.
OK. Simon-Olivier?
J'ai deux éléments que j'ai apportés. D'abord, moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. Mais après ça, qu'est-ce que ça veut dire être dans le mix? Est-ce que ça veut dire être vraiment dans le mix comme les Red Wings l'ont été? C'est-à-dire que jusqu'avant la tire de barrage hier soir, ils étaient possiblement qualifiés en série. Ou ça veut dire comme être les Devils du New Jersey qui ont été dans la course pendant longtemps et qui ratent les séries par 10 points? Comment je dirais ça? C'est comme si le Canadien voulait devenir, pourrait devenir une équipe d'entrée de gamme du deuxième tiers, puis dirait qu'il est dans le mix, mais il sera encore loin du but. Fait qu'après ça, le mix a le dos large. Est-ce que c'est être encore dans la course aux séries jusqu'à 5 matchs de la fin, jusqu'à 10 matchs de la fin au lieu d'être jusqu'à cette saison? C'était quoi? C'était une quinzaine peut-être? Mm-hmm. Je pense effectivement que dans la formation actuelle en santé avec Doc peut faire mieux. Ce qui m'amène au deuxième point que Stéphane a touché en disant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer. Ben, si on les améliore pas sur le plan du personnel, les coachs ont une responsabilité. Parce que l'avantage numérique, c'est beaucoup amélioré en quelque part au mois de décembre. Là, on a été sur la poudre pendant 20 matchs que là, ça produisait entre les meilleures équipes de la Ligue. Et depuis 30 matchs, l'avantage numérique du Canadien est... Il n'y a plus de but, là.
Matheson est parti, en fait.
Pas Matheson, depuis que Monahan est parti. On voit les chances de marquer. La rondelle tourne. Il n'y a pas de but. La deuxième unité d'avantage numérique cette saison a été à l'abandon. Le désavantage numérique s'est amélioré en fin de saison, mais ça a été long, là. Ça a été beaucoup. Il y en a eu des buts puis des jeux brouillons. Fait que peut-être que là, maintenant, on maîtrise mieux le schéma. Et ça, vraiment, on dit, bon, on a bâti puis on est parti pour l'an prochain. On en a parlé tantôt, la couverture défensive. Fait que je vois beaucoup de problèmes, qu'on dit, ben, soit ça prend les meilleurs joueurs, puis s'il n'y a pas les meilleurs joueurs, faut que ça s'améliore autrement. Puis moi, comme je disais, je pense que les coachs vont se retrouver peut-être un peu plus sous le spot de dire, ben là, qu'est-ce que vous pouvez faire mieux si vous n'avez pas des meilleurs joueurs? Ben là, comment vous pouvez, eux, faire qu'ils performent mieux? Donc, oui, je pense qu'ils peuvent être dans le mix, comme je disais, selon la définition qu'on a du mix. Mais encore une fois, il y a de l'ouvrage à faire.
Moi, je vais ajouter, Stéphane, quand tu disais tantôt, tu parlais des 5 victoires pour le ménage à 3. Je pense sincèrement que ça a fait mal aux Canadiens cette année, cette histoire de ménage à 3-là. Je pense que le Canadien, en fait, a négocié avec Jake Allen pendant toute l'année. C'est avec Jake Allen qu'on a négocié pour dire « va donc New Jersey », puis ça a pris du temps avec Jake Allen dise « oui ». Je pense que ça a fait mal aux Canadiens. C'est un bon 10 points que tu es capable d'aller chercher, à mon avis, de plus maintenant. Comment ça va? Est-ce qu'on est capable de refaire ça l'année prochaine? J'en ai aucune idée. Mais cette année, je pense que c'est là que ça a fait mal. Moi, il y a un point que je veux savoir, les gars, puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire à Martin Saint-Louis, ton système défensif, ça marche pas? Dans ta zone, là, le man-to-man avec les gars que t'as présentement, c'est des jeunes, ils savent pas ce qu'ils s'en vont, ils comprennent pas le jeu, ça devient dangereux. Peux-tu changer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ça, Martin Saint-Louis, tu penses, Stéphane?
Ben, j'espère que ces boss sont capables de dire Gorton et Kent Hughes. J'espère qu'ils sont capables de dire, parce que visiblement, on essaye de nous vendre un système hybride. C'est pas un système hybride. Je regardais encore attentivement dernièrement. C'est vraiment man-to-man. Et puis quand tu retrouves un défenseur, moi, proche de la ligne bleue, là, qui quitte son poste dans les filets, là, parce qu'il faut qu'il se couvrir son gars qui se ramasse jusqu'à la ligne bleue, là, et que c'est un new hook ou n'importe qui devant le filet qui a à couvrir, de le protéger son gardien de but, je m'excuse, j'y crois pas. Donc, j'espère que ces boss vont être capables de se dire, écoute, Martin, là, y a-tu moyen, je sais que t'as la tête dure, là, mais y a-tu moyen de peut-être revenir à un système beaucoup plus simple, moins compliqué, surtout avec les effectifs qu'on a?
Hey, j'ai vu Lane Hudson à son deuxième match le moment donné, être en plein milieu d'une genre de croix défensivement puis faire où c'est je m'en vais ici.
Il s'est ramassé à la ligne bleue contre Gutzisberg aussi à un moment donné.
Mais exactement. Mais tu sais pas quand tu sais pas où tu t'en vas dans le milieu.
Dans le cas d'Hudson, je me range à l'argument que Saint-Louis a invoqué après le match, le premier match d'Hudson à Détroit de dire tu sais, il arrive.
Il
n'y a même pas eu une pratique.
J'ai aimé ce que Martin dit. Excuse-moi de te couper.
Vas-y.
Mais il dit garde, il y a des joueurs, ça fait 80 matchs, sont ici puis ils sont encore mêlé. Donc, pauvre gars, là, il arrive, le premier, il y a un match. Là, fait que ça, je suis d'accord avec toi.
Mais, ça l'a dit, Hudson, quand on parle de l'avantage numérique, ça, il y a quand même de l'espoir parce que, écoute, la façon dont il bouge horizontalement sur la ligne bleue.
C'est un spécialiste.
Écoute, ça, c'est du wow. Là, quand même.
Wow. C'est
en fait, ce que je trouve intéressant avec Hudson, je pense qu'il va être un joueur unidimensionnel. Là, comme, il va être très, très porté sur l'attaque, un peu à la Matheson. Là, le positif que je vois de ça, c'est que au-delà du premier trio du Canadien, présentement, il n'y a presque pas eu d'attaque là, cette année. Là, c'est un joueur comme ça peut quand même renforcer les autres lignes. T'sais, il peut agir comme un des attaquants, finalement, de cette ligne-là. Fait que peut-être que la production offensive... Moi, je m'attends à faire à ce que la production offensive augmente avec l'ajout de lui puis Mailloux, mettons, dans les deux prochaines années dans l'alignement. Il y a plus de buts. Après ça, ben il y a une balance à faire. Puis si ces gars-là pinch, il va falloir trouver...
Il va falloir défendre.
Ben, il va falloir trouver des attaques. Mais je pense que la solution passe par plus d'attaquants défensifs dans l'équipe.
Ouais, clairement. Simon-Olivier, vas-y.
Quelque chose qui m'amuse toujours quand on parle de comment le Canadien est désorganisé dans sa zone. Souvenez-vous, en février 2022, c'est très spécifique, c'était quoi la critique de Dominique Ducharme, adressée à Dominique Ducharme, c'est que les défenseurs ne savaient pas quoi faire dans leur zone. Puis Jeff Petrie avait dit « Le système marche pas, on sait pas où qu'on s'en va », je paraphrase, là, c'était pas au mot à mot. Et Dominique Ducharme a été congédié. Il y avait d'autres raisons, probablement. Je veux dire, l'équipe était... un désastre à ce moment-là. Donc, je ne dis pas que c'est juste ça, mais ça me fait sourire un peu que maintenant, c'est comme, non, mais c'est soyons patients, ça va aller, ça va finir par marcher, peut-être. Puis à ce moment-là, on fera tous notre mea culpa de dire il y avait raison tout ce temps-là, mais à date, ça ne marche pas.
Moi, je trouve que tu ne peux pas avoir une équipe run and gun, là, tu sais, équipe qui veut juste aller à l'attaque quand tu ne maîtrises pas ce que tu as dans ton territoire. En plus, tu as deux gardiens de but qui sont là, qui sont de bons gardiens de but, mais pas des gardiens de but élites. Et je te parle d'élite parce qu'on fait référence à Carey Price. Puis là, Stéphane, t'es bien placé pour en parler. Mais Carey Price, là, c'est un troisième défenseur. La rondelle arrivait, il pouvait relancer l'attaque rapidement. Primo, c'est pas le cas. Montembeau, c'est pas le cas. Puis je reviens, je continue. Kent Hughes dit, regarde, Montembeau, c'est notre gardien de but numéro un, mais on veut pas trop lui coller l'étiquette parce qu'on veut de la compétition entre les deux. On a deux bons gardiens, on veut de la compétition entre les deux. Comme je veux t'entendre réagir là-dessus, Stéphane. Puis en même temps, est-ce que ces deux gars-là peuvent t'amener en série de fin de saison?
Ouais, j'aime ça parce que, écoute, si t'as un Carey Price, un Hellebuck, un Vasilevskiy, tu le dis. Non, c'est le numéro un. Puis même s'il y aurait de la compétition, là, écoute, c'est le numéro un quand même. Le fait qu'ils disent ça, ça veut dire que oui, ils pensent que Montembeau, c'est un numéro un, mais c'est pas un numéro un élite. Et je suis d'accord avec toi, JR, à 100%. Mais je pense que ce duo-là peut amener cette équipe-là en série. Mais pas plus. En série, si tu veux gagner, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va prendre une autre catégorie de gardien de but quand on parle de gardien de but élite, comme que je viens de nommer, les Oettinger, les Hellebuck, les Vasilevskiy, les Damko. Ça, c'est des gardiens de but élite. Shesterkin. Mais ça va prendre des gardiens de but de même. Mais ils peuvent t'amener en série, mais pas plus.
OK, ils peuvent t'amener en série, mais si tu veux gagner en série, ça va te prendre un jeu défensif serré et efficace. On l'a pas non plus.
Ouais,
ça va pas bien.
Jacob Dobesch et Jacob Fowler.
Effectivement. Les gars, comment vous trouvez ça, vous, le duo de gardiens de but, Alexandre? Est-ce que ça peut t'amener en série?
En fait, c'est pas à cause d'eux qui participeraient aux séries. Pour se rendre aux séries, ça va prendre un meilleur collectif défensif, point barre. Ça comprend tous les joueurs qui sont en avant des autres. Je pense que ce sont deux gardiens qui sont comme dans la moyenne de la ligue. T'sais, si on prend comme duo, là, je pense que c'est des gardiens qui sont dans la moyenne. Donc, c'est pas eux qui vont te charrier comme Price, mettons, pour faire charrier le Canadien vers les séries. C'est pas ce type de gardien-là. En même temps, ils nuisent pas. Donc, c'est pas des joueurs qui ne te feront pas participer aux séries.
C'est pas un facteur. Dans la défaite ou la victoire.
C'est ça, exactement. Donc, moi, je pense que c'est le collectif en avant. qui va faire la différence entre est-ce qu'on participe aux séries ou pas. Mais tu sais, ils ne te nuiront pas, mais c'est pas eux non plus qui vont faire la différence.
Simon Olivier.
Je regarde dans l'association de l'Est, les trois équipes qui ont échoué à atteindre les séries, mais qui sont passées proches, les Flyers, les Penguins, les Red Wings, c'est des équipes qui sont pas très bien nantis devant le filet. Et je donnerais le bénéfice du doute à Tristan Jarry, que je pense que c'est pas un vilain gardien, mais sinon, des trois clubs, je suis pas sûr qu'il y a des gardiens qui sont meilleurs que Samuel Montembeau là-dedans. Et peut-être un Villé-Housseau au sommet de sa forme, je sais pas, mais tu sais, puis Caden Primo, je pense qu'il peut se battre à armes égales contre Samuel Erson ou contre tu sais James Reimer qui affrontait le Canadien hier dans un match. Ouais. Tu sais l'équipe joue sa saison, James Reimer, je veux dire, tu sais c'est des équipes qui ont complètement négligé cette position là. Le Canadien a deux gardiens qui viennent de l'organisation. Je sais que Montembeau n'a pas été repêché par l'organisation, mais vraiment, c'est le plus grand progrès, c'est avec le Canadien qu'ils ont fait. Primo vient de l'organisation. Ils ont été solides cette saison. C'est incroyable. Le Canadien a fini 28e et leur gardien les a tirés vers le haut. C'est vraiment, les gardiens de but ont sauvé des buts cette saison. Ils les ont aidés. Imaginez ouais. où ce qui serait sans eux. Donc, non, moi, ça m'inquiète pas pour la suite. Je sais pas si je peux être aussi tranché que Stéphane, qui est le spécialiste sur pas plus loin que les séries, mais les séries, ce serait déjà beaucoup.
Ça serait immense. Ouais. Puis en même temps, moi, je regarde ça. Autant Pittsburgh, autant Détroit, autant Philadelphie, c'est des clubs qui ont eu de la difficulté dans leur territoire. Fait que donc, morale de l'histoire, ouais. améliorons le travail dans le ouais. territoire défensif et ça ouais. sera plus facile de prendre possession de la rondelle puis d'aller marquer des buts par la suite.
Écoute, hey, regardez en Floride, les gars, le gardien de but qui a fini numéro un dans toutes les stats, Anthony Stolarz.
Ouais.
Écoute, là, c'est un joueur de la Ligue américaine de carrière. Il a fini premier dans la moyenne de buts contre, la moyenne d'efficacité. Il y a une raison pour ça, on la sait toute. Les Panthers sont très organisés dans le territoire.
Voilà, écoute, il n'y a rien d'autre à rajouter à part ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus?
C'est réglé.
Prochain balado la semaine prochaine. Merci, bonsoir.
Non, attendez, j'ai quelque chose de bon. On va faire une pause, puis au retour, on se parler de Jeff Gorton et de Kent Hughes, qui veulent ajouter du talent offensif. Il dit, nous avons les assets, nous avons les outils nécessaires. Et on va se parler de où on aurait besoin d'améliorer. Là, c'est sûr que là, Simon Olivier est arrivé avec 5, 6, 7, 8 joueurs. On va être plus précis que ça un petit peu. On va faire ça, tu sais, tant qu'à faire. On va faire les choses comme il faut. On s'arrête quelques instants. Restez là. On est de retour au balado Sortie d'onde saison 5, épisode de 54 avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, aujourd'hui, dans le bilan, Jeff Gorton et Kent Hughes étaient... Hey, un mot sur Jeff Gorton.
Oui.
On le voit pas souvent. A quand même eu sens de l'humour durant le point de presse. J'ai l'impression qu'il est plus incisif en anglais que Kent Hughes peut l'être en français. C'est-à-dire, on veut gagner, ça c'est sûr. On est rendu à une étape où il faut améliorer notre équipe. Tandis que Kent Hughes, en français, modérait un peu tout ça. Ça se peut que ça soit pas facile. T'as pas trouvé ça, Simon?
C'est large, à l'inverse, je trouve un peu flat Jeff Gorton aujourd'hui. Souvent, je trouve que c'est quelqu'un que j'aime bien entendre parce que justement, je trouve qu'il est très franc.
Okay.
Puis aujourd'hui, j'ai pas appris grand-chose dans ce qu'il a dit. Je trouvais que c'était une autre version, peut-être dans les mêmes mots, dans un peu de mots différents du discours officiel de l'équipe, mais non, j'ai pas été renversé personnellement.
OK.
Moi, bon. Je pense qu'il va être plus volubile quand il va être à Columbus.
Oh!
Non, là.
Bon, Olivier lui a demandé ce matin s'il allait être avec les
Ouais, je
de
sais,
temps.
C'était bon, c'était une bonne question.
Il n'a pas dit qu'il allait être là, il a dit qu'il aimait Montréal, puis qu'il avait la famille Molson.
Il a dit c'est juste des gossips, c'est juste des potins, c'est juste des rumeurs. Mais tu as posé la question quand même. Ben,
okay.
Ceci étant dit, on va ajouter du talent offensif. Nous avons les outils, là, j'utilise le terme en anglais, nous avons les assets. Kent Hughes a dit, c'est un été extrêmement important. Gorton a dit, c'est le plus dur de la job présentement d'améliorer l'équipe. On a été assez précis. Dans le cas de Kent Hughes, il a dit, plus de talent offensif, on veut ajouter de la grosseur. Puis en même temps, il faut que nos unités spéciales soient meilleures. Comment on va faire ça? Simon-Olivier, bonne chance, commence et on prend des notes.
Ben, c'est une bien bonne question. Quand il parle des assets, moi, ce que j'entends, c'est choix repêchage. Vraiment, c'est le Canadien en a, mon Dieu, 15 à la douzaine. Combien il y en a pour cette saison déjà?
12.
12, donc, tu sais, il y a deux choix de premier tour, un de deuxième, deux de troisième, et ensuite, il y a trois choix de septième tour, et ça, je vous ai mis un prix là-dessus.
C'est palpitant.
Le Canadien n'a pas hésité à les utiliser aussi au cours des dernières années. Le Canadien est allé chercher un choix de premier tour pour Kirby Dach. en fait, qui avait échangé au, donc au Blackhawks, a échangé un choix de premier tour et un choix de deuxième à l'Avalanche pour Alex Newhook. Donc, on a, tu sais, le fait canadien a deux choix de premier tour, selon moi, celui des Jets, qui est le deuxième, doit être probablement disponible à qui le veut. C'est ça que j'entends aussi. Les assets, souvent, ça désigne les jeunes joueurs de l'organisation. Mais là, après ça, c'est toujours la même affaire. C'est-à-dire, nous, où souvent les amateurs vont dire, ah, ben, tu sais, qu'ils échangent Riley Kidney, tu sais, pas de problème. Mais c'est, quand les autres équipes appellent puis qu'ils pensent à un jeune, ben, ils pensent à Caden Goulet, ils pensent à Logan Mailloux, ils pensent à Lane Hudson. Et là, je sais pas, tu sais, là, présentement, Lane Hudson, c'est la meilleure affaire qui est arrivée depuis le pain tranché. Mais tu sais, si le Canadien décide de l'échanger pour un gros attaquant, est-ce que ce serait un scandale en ville? Je sais pas. Fait que moi, je pense qu'Kent Hughes a encore dit ce matin que la stratégie qu'il avait utilisée pour aller chercher Kirby Dach et Alex Newhook semblait être la voie privilégiée, mais comme il l'a dit, il faut chercher pour ça. Puis faut que la fenêtre elle s'ouvre, que tu trouves le joueur, l'équipe qui veut, puis l'équipe qui scanne ses demandes sont en phase avec ce que tu veux donner. Donc c'est pas fait. Puis sur le marché des joueurs autonomes, je pense que le Canadien est pas assez proche d'être une très bonne équipe pour ça, mais je pense que Jake Wenzel aurait été, ou un Jake Wenzel, je vais le dire comme ça, aurait été un bon ajout. Ce genre de joueur-là, je pense, pourrait aider. Mm-hmm. Un joueur polyvalent, qui on l'a vu avec Crosby, évidemment, le Canadien n'a pas le Crosby pour le faire fonctionner, mais on voit que ça se passe bien aussi en Caroline. Un joueur qui aiderait l'avantage numérique, un joueur qui est un joueur aussi qui performe beaucoup en série ou dans les matchs importants. Donc, je verrais un joueur de ce profil-là, mais est-ce que le Canadien est rendu à être sur les rangs pour Jake Wenzel qui pourrait réclamer 10 millions cet été? Je suis pas sûr de ça, tout à fait. Fait que, à suivre.
Alexandre?
Je pense que ça va être plus difficile qu'on l'anticipe d'acquérir des joueurs de qualité en attaque. Ça se trouve. T'sais, c'est plus facile de trouver, mettons, des attaquants qui produisent 20 buts par année que des défenseurs droitiers, mettons, d'élite, là, ça va de soi. Il y en a plus aussi, mais ça sera pas facile parce que je pense pas que le Canadien va mettre en jeu son vrai premier choix au repêchage, celui qui va être comme 5, 6, 7e. Ça, je pense qu'il va être hors discussion. Et idéalement, ben, t'sais, tu donnerais pas un Caulfield pour acquérir un bon attaquant. Tu vas donner un défenseur pour obtenir un attaquant. Et sinon, parce que le reste des espoirs qui sont en attaque, je pense pas qu'ils valent assez cher pour aller chercher un choix de deuxième tour. Tu sais, mettons qu'on parle de Owen Beck ou ouais. En tout cas, toutes les autres. Je pense pas que mm-hmm. ça soit suffisant. Pas pour acquérir un choix de deuxième tour, un joueur de deuxième trio. Les seuls qui ont cette valeur-là, c'est les défenseurs combinés à quelque chose d'autre. C'est pas évident pour moi que cette transaction-là sera facile à faire. Ce que j'aimerais les voir ajouter à court terme, c'est vraiment des attaquants à caractère défensif. C'est plus difficile à avoir. T'sais, on n'arrête pas de dire, oh oui, c'est facile d'avoir des Lekkonen, des joueurs comme ça. Souvenons-nous que Lekkonen a quand même coûté Byron, qui était un ancien choix de premier tour, puis un deuxième tour là, au.
Qui retourne à Laval, soit dit en passant.
C'est ça, exactement. Ouais. Mais je veux dire, c'était historiquement un premier tour. Ces joueurs-là, depuis comme 3-4 ans, depuis en fait que Dano a quitté le Canadien, obtiennent vraiment des super bons contrats sur le marché des joueurs autonomes. Donc, c'est possible d'en trouver sur le marché des joueurs autonomes.
Mais
c'est
pas un avec Dvorak. Tu trouves pas que c'est un attaquant défensif?
Ben, c'est son.
Vraiment, là, ou.
Ben, c'est... Non, non, mais c'est vrai, pareil.
Ben, c'est son label,
c'est ce
là. Mais...
C'est ce qui est écrit dans son CV.
Ouais, non, mais
je dirais concrètement. Il a été blessé deux saisons de suite, là, mais quand même, c'est pas son profil.
Ben, je veux dire, pour moi, je le considère pas comme faisant partie du futur du Canadien, puis une solution pour faire réduire le nombre de buts clairement pas. Là,
je veux dire, à court terme, il est sous contrat avec l'équipe.
Non, mais tu sais, moi, j'aimerais ça les voir en acquérir, mettons, au moins un, mettons, qui viendrait stabiliser le désavantage numérique, puis tu sais, qui donnerait vraiment une autre option que Jake Evans, mettons, en fin de partie ou en prolongation même. Tu sais, j'aimerais ça voir quelqu'un d'autre, arriver avec ce profil-là à court terme. Je pense que le vrai talent offensif, je suis pas sûr qu'ils vont l'acquérir cet été. Je pense que ça va être plus l'été prochain. Ils ont encore beaucoup de gros salaires en attaque parce que, tu sais, là, tu vas avoir Caulfield et Suzuki à genre autour de 7.8. T'as quand même encore ce contrat Gallagher, t'as ce contrat Anderson, Slavkovski, je pense pas qu'il va aller sur un contrat pont. Je pense qu'il va aller prendre tout de suite un gros contrat. Mais ouais. Là, t'as déjà 5 attaquants qui gagnent plus que 5 millions pour les 3 prochaines saisons. Écoute, le rentrer un gars de 10 millions là-dedans, là, j'y crois pas vraiment.
Ça devient compliqué en quelque part. Stéphane, le joueur autonome avec restriction, est-ce que ça peut être une option pour le Canadien? On regardait entre autres du côté des Hurricanes de la Caroline qui pourraient voir un peu les cordons de la bourse être un petit peu serrés avec des signatures à faire. T'as un gars comme Nick Ash qui est là, peut-être que ça peut être une option.
Seth Jarvis.
Mais là, t'as Seth Jarvis à signer. J'imagine que les Hurricanes vont vouloir avoir Seth Jarvis, tu sais, avant de penser. Surpris, là, je vais t'aimer, quoi.
C'est le genre de signature qui pourrait être faite, mais écoute, comme Kent Hughes a dit, il y a beaucoup d'assets, puis on parle juste des choix première ronde, des choix au repêchage pour les deux prochaines années, je pense que c'est 23, et écoute, les assets, tu en as parlé, vous en avez parlé, les gars, là, Owen Beck, c'est le genre de joueur qui pourrait intéresser le Jack Eye, le frère, le jeune Florian, des Strouble, des Harris, des Barron. C'est des gars qui pourraient compléter avec un choix, des choix de bonheur. Et puis, non, il y a moyen d'être créatif pour aller chercher. Pour moi, et encore une fois, je reviens avec tantôt, il ne manque pas grand-chose. Mais essayer de se bâtir un deuxième trio, oui, ils sont rares. Mais tu as des équipes qui vont avoir beaucoup, qui ont des joueurs à signer, qui vont manquer d'espace. Et il y a des joueurs qui vont être disponibles en quelque part. Et il y a moyen d'être créatif. Kent Hughes, il y a des, comme qui dit, des assets. Et puis, ça va être très intéressant. Et il a prouvé. Dans le passé, qui peut sortir des lapins de son chapeau. On parle de l'acquisition de Matheson, on parle de l'acquisition de Dak, on parle de l'acquisition de Newhook. Il a pas peur de bouger et puis ça va être très intéressant.
OK, mais avant de faire de la magie du côté de Kent Hughes, là, est-ce qu'un gars gros, rapide, droitier, qui a eu des saisons les trois dernières de 17, 19 et 21 buts, pourrait aider le Canadien de Montréal qui s'appelle Josh Anderson et qui a dit lui-même qu'il a été minable cette saison. Est-ce que ce gars-là peut revenir?
Non. Non, parce que non, mais pour une raison très précise, pas par manque de talent, parce qu'il n'y aura pas de place pour lui. Il n'y aura pas de temps de jeu de qualité en fait qui va lui permettre de retourner, je pense, à 20 buts. Tu sais, il jouera pas sur le premier trio, comme il a déjà joué. Quand il marquait 20 buts, là, des fois, il y avait des auditions à côté de Suzuki. Là. Ça n'arrivera plus, je crois. Même sur le. Il pourrait théoriquement jouer là, sur le deuxième trio, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut renforcer les deux premiers trios. La solution, théoriquement, ça ne sera pas lui. Fait que, tu sais, s'il se ramasse sur un troisième ou un quatrième trio, pas de temps sur la première unité en avantage numérique, pour moi, ça ne sera pas un joueur de 20 buts. Écoute, il faudrait que son pourcentage de réussite, d'efficacité de ses tirs, tu sais, atteindre des 20%, je disais, pour se rendre là à un moment donné. Parce que c'est pas vrai que c'est en jouant avec Evans puis Dvorak qui va devenir un joueur de, tu sais, 25 buts par année, j'y crois pas.
Simon Olivier?
Je vais prendre une prédiction osée. Mais pas osée pantoute. je pense que Josh Anderson va être lié droit de Kirby Dach au premier match du Canadien l'année prochaine. Oui. Pas parce que je pense pas qu'il faut qu'il soit. Mais je pense que ça va être ça parce que.
Par défaut.
Je pense pas. Ouais. Quand je disais tantôt, tu sais, on fait la liste exhaustive de ce qui manque aux Canadiens. Je pense pas que le Canadien va se magasiner deux alliés de top 6 cet été. Et je pense qu'un de ceux-là va être encore Josh Anderson parce que je dois dire que Brendan Gallagher sur un trio, troisième ou quatrième, ça me dérange pas.
Armia, New York, Gallagher.
Moi, je pense que ça pourrait être le troisième trio du Canadien l'an prochain.
Facile, là.
C'est un trio qui est capable de générer.
Armia, New York, Gallagher?
Ouais.
Ça veut dire que t'aurais Dvorak.
Là, c'est un autre balado, mais on a un sérieux problème avec Dvorak.
C'est ça, on parlera d'eux autres une autre fois, mais pour moi, je pense qu'il y a un troisième trio là. Après ça, Josh Anderson, sur le quatrième trio, ça sert à rien. Ça marchera pas. Puis après ça, qu'est-ce que tu veux faire avec Anderson? Est-ce que tu le vois dans le futur ou tu veux l'échanger? Si tu veux l'échanger, ben, faut que tu le manques. Faut qu'il fasse de quoi de bon. Puis il y a une personne.
Qui va le prendre.
Il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui peut l'aider chez Canadien, c'est Kirby Dach. Puis Kirby Dach, c'est un joueur de centre qui ratisse large, qui est fabricant de jeu. Ils ont joué ensemble au camp d'entraînement beaucoup, même s'ils n'avaient pas commencé la saison ensemble. Je pense que c'est la chance qu'on va donner à Anderson de se reprendre. Puis quand il a dit que sa saison était épouvantable, ben il a absolument raison. Je veux dire, c'est pas une opinion, c'est un fait. Et il peut juste s'améliorer. La première chose qui me vient en tête quand je vois Anderson, c'est que je me dis, je pense qu'il peut encore marquer 20 buts, mais pas à Montréal. Mais comme il est collé à Montréal, il faut faire quelque chose avec. Je pense que c'est de jouer avec Kirby Dach. Qui risque d'arriver en espérant pour lui que ça débloque.
Stéphane, comment tu vois ça?
Ben, premièrement, il ne pourra pas être moins pire que cette saison.
C'est vrai.
C'est quasiment impossible. Lui, ça devait être le gars à Montréal qui était le plus content que la saison finisse, et avec raison. Et puis, donc, je pense que moi, c'est seulement une question de confiance. Mais lui, c'est deux choses. Cette année, la confiance, tu le voyais, c'était zéro. Les chances de marquer qu'il y a eu, là, qui manquaient le net, là, c'est incroyable. Tu peux pas être mieux placé. Manquer le filet, c'est confiance, point final. Donc ça peut pas être pire. La seule affaire qui changera jamais avec Josh Anderson, même s'il il reviendrait le joueur qu'il était, c'est son mot, juste cette fameuse constance qu'il a jamais eu dans la Ligue nationale, que ce soit à Columbus ou à Montréal. Il a jamais eu la constance d'un joueur de deuxième, de top 6. Et ça, c'est le plus gros problème. Va falloir vivre avec. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Simon Olivier. Va falloir vivre avec. Espérer qu'un Dach peut le relancer. Espérer que sa confiance revienne. Et puis de vivre avec son inconstance. Parce que là, quand même, le gars, il a quand même 29 ans. Il est pas, c'est pas rendu un pépère encore, là. Il est pas rendu 34, 35 ans. Le gars est encore en train, capable de patiner. Le gars, même s'il a manqué de notes toute la saison, il a quand même un bon lancer. Le gars, il a un gros gabarit. Il y a de quoi dans ce gars-là encore. Il est pas fini. Il va falloir rebâtir sa confiance. Puis je pense que c'est pas fou. Le partir sur un deuxième trio avec un gars de qualité de Kirby Dach, on n'a rien à perdre.
OK, mais là, attends, je vais te retourner ça un peu dans le visage, Stéphane, parce que sur notre balado, tu étais un des premiers à dire « Je vois Joshua Roy sur un top 6 ». Fait que ça veut dire qu'on a le top 6, c'est Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Joshua Roy, Dach, puis Josh Anderson.
Oui, mais Roy, là, il est pas prêt avec un top 6, mais il va le devenir.
Okay.
Fait que pourquoi pas lui donner la chance s'il n'a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. C'est le genre de gars que tu vas vouloir quand il va être à son prêt pour la Ligue nationale. C'est le genre de gars qu'il faut que joue sur ton top 6, selon moi. Mais ça serait une ligne quand même meilleure que qu'est-ce qu'on a eu cette saison, là, sans Dach, sans Roy. On n'avait pas de deuxième ligne. Là, au moins, on a quelque chose à bâtir dessus.
OK, parfait numéro 1. Hey, juste dire une petite note, là. C'est passé un peu incognito, puis j'ai oublié d'en parler tantôt quand on parlait des gardiens de but. C'est Mel Montembeau qui a décidé de ne pas accepter l'invitation du Canada.
On est déçu de ça, moi.
Mais pourquoi? C'est-tu parce qu'il ne voyait pas sa place, sincèrement, avec l'équipe canadienne aux prochains Jeux olympiques? Fait qu'il s'est dit, pourquoi je vais faire ça?
Ben là, ouais, ça y a tellement rapporté l'année passée, cette expérience-là. On a vu un Samuel Montembeau plus confiant, avec une expérience d'avoir gagné, joué des matchs significatifs. Je pense que ça lui a aidé beaucoup, cette expérience-là, l'année passée. Je suis déçu. C'est pas comme s'il aurait joué 60 matchs, là. Il a eu 40 départs. Il a joué dans 41 matchs. Il a eu 40 départs. Je suis un petit peu déçu de cette situation-là, à moins qu'il cache une blessure. Mais à part de ça, je vois pas de raison majeure.
Simon Olivier.
Ben moi aussi, moi j'étais pas dans le bilan de Montembeau ce matin. J'étais ailleurs dans le vestiaire et quand mon collègue Richard Labbé qui était, il a dit Montembeau va pas au championnat du monde. Je dis, y es-tu blessé? Il dit, ben j'ai demandé, y es-tu blessé? Il semble dire que non. Moi, je veux pas qu'il y ait de rumeurs qui parlent avec ça. Je vais assumer qu'il y a des raisons personnelles qui sont les whatever, là. C'est pas, je sais pas si ça peut être quoi, mais si c'est un gars qui pense à sa carrière, c'est sûr qu'il irait. Puis je pense que Samuel Montembeau, c'est un gars intelligent, qui a eu une super expérience l'année passée, il en a parlé que en bien. S'il y avait pas une raison, il irait. Fait que moi, j'assume ça. Je sais pas, je ferai pas une grande enquête là-dessus, là.
Okay.
Mais effectivement, c'est pas un move de carrière de dire non, parce que pour le Canada comme pour les États-Unis, je pense que ça va être un premier recrutement pour l'équipe des quatre nations dans un an et des Olympiques dans deux ans.
Exactement.
Donc, ça va être une bonne tribune. D'autant plus qu'avec notre collègue Guillaume Lefrançois tantôt, on faisait un décompte de c'est qui les gardiens qui pourraient être là. Même ceux en série présentement, il y a pas beaucoup de gardiens canadiens qui pourraient aller rejoindre l'équipe du championnat du monde. Donc, Montembeau, il aurait joué, là. En plus, il a gagné l'an passé. Exact.
Plus.
Fait que, en tout cas, c'est mystérieux, mais je vais laisser vivre ça tout ça.
Juste dire, Caulfield va aller avec les États-Unis, Slavkovski avec la Slovaquie, et Nick Suzuki, hier, en conversation avec Marc Denis sur la patinoire, a pas précisé s'il était pour être là avec l'équipe canadienne. Un autre que Jissita a émis le souhait d'aller aux Jeux olympiques. Faut que tu fasses ces affaires-là avant. On le sait que c'est comme ça que ça marche, là. T'es obligé d'embarquer là, parce que sinon, tu seras pas pris plus tard.
Ben, tu sais, Suzuki a toujours l'excuse de dire, écoutez, là, je viens de jouer, je sais pas, 3, 4, 5 saisons complètes. Je pense que vous savez ce que...
Il a pas fait les séries.
Ben, il est allé en finale, là. Il y a comme 3 ans.
Ouais, non, mais sinon, il sera en série.
À 3 ans qu'il fait pas les playoffs.
Ouais, je comprends. Mais tu sais, je pense que si t'es Suzuki, tu peux toujours faire valoir de regarde, là, vous m'avez quand même vu assez jouer, puis tout ça. Alors que... Non, mais attends, même comparé à Motombo, tu sais, Motombo, il y a encore un petit peu de... preuve à faire, mettons, auprès de l'establishment de Hockey Canada pour savoir s'il ferait l'équipe ou pas. Mais tu sais, je pense que les deux, c'est des long shots aussi, de toute façon, étant Suzuki que Motombeau pour faire l'équipe. Mais je pense...
Pour faire l'équipe olympique.
Oui, l'équipe olympique. Oui, l'équipe olympique. Mais moi aussi, je trouve ça comme étrange. Ben, tu sais, il doit y avoir quelque chose qui justifie ça.
Ben, l'année passée, c'était une question de santé. Il était magané, mais il avait joué les 82 matchs. Tu sais, Suzuki, il joue 22, 23 minutes chaque soir.
Non, 82 matchs par
an. Excuse-moi. Mais Suzuki, ben, en fait, c'est un peu la même chose, mais Suzuki, moi, je me demande, c'est pas un élément de quelque chose de santé, parce que il en joue des minutes, puis il bloque des, il y a encore
Crosby,
bloqué, il a encore des lancers.
Crosby fait la même chose avec les Pingouins, là. Ben, il s'arrête là tout le temps,
il s'en va au championnat du monde.
Non, mais il fait des séries. Il se promène, il va faire des tours de séries, ce que le Canadien fait pas.
Ouais, mais ça se peut, peut-être.
Là, je fais un comparatif, là, en temps d'utilisation. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, mais là, Suzuki aussi, tu sais, veut dire, il y aurait tout intérêt à y aller, tu sais, veut dire, oui, il peut être fatigué, à moins, encore une fois, d'une blessure. S'il y a une blessure, je comprends, mais le fait d'avoir joué 82 matchs, écoute, il te reste deux semaines encore, là, avant que ça commence, et puis après ça, là, t'as tout l'été, là. Il va faire quoi la journée qu'il va jouer dans les séries, là? Il va arrêter de jouer dans le début des séries parce qu'il est fatigué. Donc, il y aura tout intérêt, surtout que les Olympiques, dans une couple d'années, mais t'es bien vu par Hockey Canada c'est si ça. Tu commences à participer à ces épreuves-là puis que tu fais bien. Ça, c'est bon pour lui. Il avait tout à gagner à y aller, à moins qu'il y ait une raison qu'il nous dit pas.
Ben, il y a un joueur qui avait une bonne raison. En tout cas, c'est Mike Matheson qui a reçu l'invitation, mais sa femme accouche le 21 mai.
Je pense ça, c'est une bonne
raison. Je pense que c'est une bonne idée de pas être à Prague et d'être à Montréal.
Si tu veux que ça marche longtemps, c'est une bonne idée.
Ouais, je pense Yoel Armia pourrait.
Yoel Armia, pour moi, c'est sûr. Là, si jamais il reçoit une invitation, c'est sûr. En fait, pour moi, c'est sûr qu'il en a reçu une. Après ça, je sais pas, on y a pas parlé ce matin, fait que je sais pas s'il va y aller, mais c'est une évidence.
Et il reste le cas Goulet, que lui a manifesté son intérêt.
L'équipe l'a invité aussi.
C'est ça.
C'est ça.
Savoir si la commotion est rétablie au bon moment.
Exact.
C'est
OK, mais tu sais, c'est le fun. On parle de Goulet, puis avant de faire une pause, on va trouver le moyen de s'obstiner un peu. OK, je vous demande votre top 6 des défenseurs chez les Canadiens de Montréal. On le sait, là, ça devrait pas... Oui, il y a du talent, mais tu sais, c'est à l'attaque qu'on va aller faire des transactions. Donc, donnez-moi votre top 6 qui sera là au match numéro 1 du Canadien de Montréal la saison prochaine. Pas 7, pas 8, pas 9, 6.
Ça, c'est tough.
C'est tough, puis on va... D'après moi, on va chicaner, Tiberin. OK, qui se sent... Alexandre, t'es-tu prêt?
Non!
OK.
Oui.
OK, Alexandre.
Mais attends, je peux le faire, mais juste pour bien comprendre les règles de notre petit jeu, s'il y en a qui sont échangés là-dedans, j'y mets dans l'eau ou pas?
C'est ça, est-ce que le si jeu, c'est on dit notre choix?
S'il y a pas de non, mais il y a pas...
S'il y a pas de transaction.
Pas de transaction. Okay, top 6 des défenseurs à l'ouverture de la saison.
Okay. Bon, je vais tenir compte du fait que Jacky, une opération à l'épaule, t'ajoute 6 mois à partir d'aujourd'hui, octobre.
Pas trop, là. Il non, va mais être là, mettons qu'il est là.
Moi, je vais faire le pari qu'il sera peut-être pas prêt au début de la saison.
Mais supposons qu'il serait en santé.
Il est en santé, là.
Ouais, mais OK. S'il est en santé, ça va changer mon choix. OK, j'y vais s'il est pas en santé. Je pense que ça va être Matheson Goulet. Je pense qu'il va avoir Savard, Hudson et peut-être...
Ça fait 4.
Ouais, j'hésite pour la fin à cause des questions de balotage de qui peut être...
Le
Canadien déteste faire des joueurs au balotage. Là. J'aimerais voir Mayu et Barron, mais je pense pas que ça va être le cas. Je pense que Jacky, s'il est en santé, va prendre la place d'un de ces deux gars-là, puis Strouble comme 7. Harris et Kovacevic, je me pose vraiment des questions sur leur avenir dans la formation.
Donc, on répète, t'as dit Matheson, Savard,
Hudson, puis Mayu. Et si Jacky est en santé, je le mets dans l'alignement. S'il n'est pas, je pense que ça va être Barron. Puis je pense que Strouble est 17. Harris, Kovacevic, je ne sais pas c'est quoi la revenue.
Parfait. Numéro 1, Simon Olivier.
Moi, je triche un peu parce que je ne sais pas si c'est ce que je pense, mais moi, ce serait mon choix pour le top 6 avec les joueurs actuels. Matheson Goulet, Jacky Savard, Harris Mayu et Barron 7e. Je pense que Harris Mayu, c'est un troisième paire qui serait intrigante. Je pense que Harris a beaucoup de qualités, mais n'est pas bien servi par Kovacevic à sa droite. Puis je pense que Mayu comblerait deux besoins chez le Canadien, celui de la robustesse et de l'apport offensif, qui est en fait, si jamais il y avait un très bon camp d'entraînement, moi je pense qu'il est plus proche de la Ligue nationale que Lane Hudson. Et j'ai l'impression qu'il fait tout mieux que Justin Barron. Après ça, peut-être pas sur le plan défensif, c'était pas un bon échantillon, il y a le match d'hier soir, mais j'ai l'impression que ses qualités personnelles ressemblent à celles de Barron, mais en mieux. Et je pense que ça pourrait ressembler à ça. Donc, c'était Matheson, Goulet, Jacky, Savard, Harris, Mayu.
OK, parfait. On s'obstine pas tout de suite. Stéphane, ton top 6?
Mon top 6, c'est pas facile. C'est Matheson, Savard, Goulet, Mayu, Jacky, et Barron. Et Barron.
On n'est pas loin.
Ouch. Et Barron, parce que, premièrement, c'est un droitier. Faut faire attention aussi, là. C'est un droitier. Mais lui, je pense qu'il faut que tu le passes au balotage l'année prochaine.
Ouais, exact.
Et c'est la raison pourquoi il faut que tu le fasses commencer à Montréal. Dans le PDP, tu veux le montrer. Tu veux qu'il y ait un bon début de saison. Après ça, ça peut devenir comme. Quand tu oses me dire un asset. Ouais. Mais il est droitier, il y a le balotage, et puis il y a quand même eu, quand même les gars, il y a quand même 9 buts cette saison, si je ne me trompe pas. Barron,
C'est pas 7, je pensais que c'était 7. En tout cas, ben,
exactement.
Il est très bon pour appuyer l'attaque, Barrett.
Oui, exactement.
Avec le troisième homme dans la zone, ça, c'est sa spécialité, ça.
Mais c'est ça. Puis Hudson, pour moi, mais ça sera pas dans le pire des pires. Je serais pas surpris qu'il commence à Montréal, mais ça sera pas l'enfer. Ça sera pas la fin du monde qui commence la saison à Laval.
OK.
Et puis, donc, c'est mes choix.
OK, je donne mes choix, puis on s'obstine après, OK? Moi, je vois Matheson.
Ah! Voyons.
Tu m'as fait faire le saut. Mais oui, pas c'est ça. Ça. Mon Dieu. Matheson, Goulet, Savard, Mayhew, Jack Eye, Hudson. C'est mon top 6.
Ouais, OK, l'année prochaine. Donc,
okay? Donc, moi, là, je vous le dis, puis ça, c'est... J'ai regardé deux mini-matchs de Lane Hudson. Deux mini, là. Puis en aucun temps, c'est de l'analyse profonde. Ce gars-là a quelque chose de spécial. A sincèrement quelque chose que peu ou pas beaucoup de défenseurs ont dans la Ligue nationale de hockey. Et ça n'a rien à voir avec ses mains, ça a à voir avec son coup de patin.
Ah,
la
incroyable.
Capacité qu'il a de se sortir d'un trou, là, la capacité qu'il a de se sortir d'une couverture est exceptionnelle. En plus, il a de bonnes mains. Je regardais dans le premier match qu'il a joué, là, avant qu'il fasse une passe qui ne soit pas complétée, là, il restait, je pense, à 25 ou 27 secondes en première période. Le reste, c'était des passes droit de sa palette. Top, 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 top. Et là, vous avez vu ce que ça donnait à l'avantage numérique. Je m'emballe pas. Je fais juste dire, ce gars-là a un coup de patin exceptionnel, avec des mains exceptionnelles. Puis c'est dans la Ligue nationale que tu veux que ça se développe, pas dans la Ligue américaine.
Est-ce que je peux commenter ça?
Vas-y donc.
Je suis d'accord avec toi. Notre seule différence entre moi et toi, c'est là Hudson-Barron. Parce que Barron, les gars, là, s'il s'en va au balatage, c'est certain qu'il est parti.
Ah oui,
ça, c'est plus que 100%. Donc, c'est ma seule raison pourquoi Barron. Barron, tu le fais commencer, tu dis « j'espère qu'il va bien » et là, c'est qui qu'il veut. Es-tu preneur? Et là, tu rentres Hudson. Je suis d'accord avec toi. Puis Hudson, Jérémy, 100% d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Ouais. Il a été impressionnant.
Ben, tu sais, trois éléments, je trouve, qui jouent en la faveur de Hudson. Quatre avec son salaire. Là, mais le Canadien adore développer ses espoirs avec son grand club. Tu sais, quand tu as un top espoir, là, t'aimes ça être le coach, les Martin Saint-Louis, puis faire
garder
comme moi, je vais le former. T'sais, ils ont fait ça avec Slavkovski. Ouais, avec ils ont fait ça avec Kotkaniemi. Ils ont fait ça avec Goulet. Ils ont fait ça. Ben, en tout cas, au début avec Peeling, après ça, ça a moins bien fonctionné. Mais tu sais, un coach aime ça. Quand tu as une pépite, là, tu veux dire que. Ben, pas tu veux dire, mais tu veux être celui qui forme là, le joueur. Fait que ça, je pense que c'est juste pour lui. Deuxièmement, le Canadien, s'il ne fait pas de grandes transactions cet été, il va avoir de la misère avec son soutien offensif au-delà du premier trio. Un joueur comme lui qui jouerait avec la deuxième ou la troisième paire, le deuxième ou troisième trio, mais tu sais, comme défenseur, tu viens d'ajouter une solide dose d'attaque, là, clairement. Et troisièmement, je veux dire, tu as des gros problèmes d'avantage numérique. C'est clairement un joueur qui peut dynamiser une deuxième paire en avantage numérique. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il est en bonne position, mais je comprends tous les enjeux aussi de balotage.
C'est mon Olivier.
Mais moi, je regarde ton top 6 à toi, Jérémy, puis je serais curieux de le soumettre au gardien de but. Du Canadien. Parce que je trouve que c'est avoir Mayhew et Hudson dans le même top 6. Quand c'est dans le top 6-là, il y a Jack Eye et même Matheson.
Mais moi, c'est dans la perspective qu'il y a quelqu'un qui a pris une petite bière à Monaco avec Martin Saint-Louis pour dire Martin, t'es bon coach, c'est le fun, mais mon Dieu, que dans ta
zone, c'est compliqué.
Mais face à ça, simple, buddy.
Le Canadien a 1 million de jeunes défenseurs, fait qu'il va pas toutes les faire jouer en bas l'année prochaine. Il y en a probablement un qui va monter. Mais le Canadien, pour vrai de vrai, s'il voulait gagner plus de matchs l'an prochain, c'est un vétéran, il faudrait qu'il acquiert en défense.
Ils n'ont pas fermé la porte à ça.
Ouais, c'est ça. En fait, il a comme donné cet exemple-là sans qu'on lui demande.
Ben oui,
je trouvais ça comme curieux. J'ai dit, oui, il y a
un
moitié vétéran qui s'en vient.
Exact.
Bref, ce ne sera pas Chris Tanev. Mais dans le sens où s'il voulait vraiment, vraiment, vraiment dire on gagne plus de matchs l'an prochain, c'est un vétéran qui acquérirait. Tant qu'elle continue avec des jeunes, rentrer Mayhew et Hudson en même temps, encore une fois, faut jamais dire jamais parce qu'ils sont toujours bons pour nous surprendre.
Ils ont quand même eu 5 recrues à défense cette année.
En fait, c'est ça. Ils ont joué dans ce film-là, puis je me dis, ça les a-tu servi tant que ça?
Peut-être que dans un système défensif plus serré, plus stable, plus simple, peut-être que ça.
Mais tu sais, je reviens à ça prend des meilleurs attaquants défensifs. Ça peut passer en partie par là. la solution.
OK, on va s'arrêter quelques instants. Mon Dieu, déjà 58 minutes. On fait ça vite. Au retour, on va se parler des Capitals de Washington qui ont arraché leur place en série aux mains des Flyers et de Détroit. Quelle soirée hier quand même. Hein?
Oui, t'as le fun.
Tortorella enlève son gardien. Il ne sait pas que Détroit s'en va en prolongation. C'est une soirée spectaculaire hier. Puis le gars de Sorel, Marc-André Fleury, qui signe pour une autre saison oui. avec le Wild du Minnesota. Il faut que j'en parle. Sorel Power! Sorel Power! Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 54, avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Laurence, Stéphane White. Les gars, hier, c'est passé quelque chose d'étrange. Premièrement, les Capitals de Washington se sont assurés d'une place en série.
Déjà, c'est étrange. Juste là, pour moi, c'est étrange.
Parti de nulle part, le club allait nulle part et trouve le moyen de se faufiler. D'ailleurs, les Capitals de Washington vont affronter au premier tour les Rangers de New York. Je vais donner le tableau rapide, OK? Panthers, Tampa Bay. Bruins, Toronto, Rangers, Washington, Hurricanes, Islanders. Dans l'Ouest, c'est Dallas contre les Kings, les Jets contre l'Avalanche, Vancouver contre Nashville et les Oilers contre Vegas. Ça, vendredi prochain dans le balado, on se fait notre émission série de fin de saison. On va en parler en long et en large. Mais dans la soirée d'hier, donc, les Flyers ne savent pas que les Red Wings en vont en prolongation. Donc, ils n'ont aucune chance. John Tortorella offre sur un plateau d'argent la chance aux Capitals de Washington de passer devant tout ce beau monde-là, marque un but dans un filet désert. Écoute, c'est une soirée vaudeville hier, j'ai l'impression. Puis finalement, c'est Washington qui se rend en série de fin de saison. Simon-Olivier?
Ben, en fait.
Et Lindgren, je veux dire Lindgren là-dedans.
Ben,
c'est ça.
Charlie boy.
Pour les Flyers, c'est ce qui est malheureux, c'est que eux pouvaient pas passer. Ils avaient besoin, tu sais, quand on tirait le gardien, on l'appelle parce qu'il y a besoin d'une victoire en temps réglementaire, eux. Donc, ça avait du sens. Après ça, c'est sûr que là, c'est particulier, on va le dire comme ça, c'est un euphémisme. Mais pour les Flyers, ça change rien dans leur vie. Ça, c'est les Capitals ou si c'est les Red Wings. Après ça, eux passent pas. Mais disons que les Capitals peuvent leur dire un gros merci. Puis, c'est pour ceux qui ont regardé le match hier soir, la réaction de Patrick Kane après son but, alors que c'était la fête sur la glace 5 minutes avant, parce que quand David Perron a fait 3-3, ça avait comme pas de bon sens. Et là, ou c'était 4-4, je sais plus, c'est pas important, mais quand il a marqué son but, il savait que les Red Wings sont rentrés tranquillement au banc et c'était comme un peu triste à voir d'être passé si près et si loin à la fois. Donc oui, c'est vrai, le vaudeville, c'était bien dit, mais pas les Flyers après ça, c'est pas leur maudit problème. Donc, qui c'est qui passe?
Alexandre?
Ben, c'est excitant. Je suis franchement étonné de voir les Capitals se passer. Je l'avais pas du tout dans mes feuilles de thé. Ce qui est surprenant aussi, c'est que tant de clubs aient été vendeurs à la date limite des échanges et se retrouvent au cœur d'une dernière journée. C'est sûr que si tu regardes ça rétrospectivement, tu fais comme, ah ouais, on aurait dû échanger Sean Walker. Mettons, c'était les Flyers. C'est peut-être que ça nous aurait permis d'aller en série. Puis les Capitals, ils le font après avoir échangé Anthony Manta quand même, qui a une bonne saison. Il a 23 buts, là, t'sais. Donc, c'est drôle, en fait, de voir. J'ai pas souvenir, en fait, d'une course aux séries avec tant de clubs vendeurs. Je me souviens pas de ça.
En fait, ceux qui ont invité les clubs vendeurs, c'est les clubs qui ont choqué. Mm. Les Devils du New Jersey cette saison, c'est une saison d'échec pour moi. Je comprends qu'il y a eu des blessés en défense, là, mais c'est vraiment une saison terrible. Ouais. Les Devils auraient dû être dans les séries.
Ouais, je les avais finalistes au début.
Moi aussi, je les avais très haut.
On reviendra pas avec nos prédictions.
Mais les Pingouins, c'est l'autre équipe. Puis, en fait, les Pingouins, ils sont dans les deux situations. Ils ont choqué, puis ils ont vendu. Ouais. Fait que c'est correct. Les Flyers, en fait, il aurait-tu dû échanger Walker? Je pense que la réflexion est plus inverse. C'est ben crime, on aurait-tu dû échanger d'autres?
Tant qu'à pas faire. C'est ça, t'sais. Mais c'est étrange comme situation de voir des clubs vendeurs qui se retrouvent tous la dernière journée, ou des deux derniers jours de la saison,
soyons honnêtes, c'est palpitant sur papier ce qui s'est passé dans l'Est.
Ouais. Ouais, c'était le fun. C'était incroyable.
Sur papier, mais en réalité, c'est plein de clubs qui ont perdu plein de matchs, qui auraient pu facilement s'assurer d'une place en série, puis tout le monde, puis j'utilise le terme que tu as utilisé, Simon-Olivier, plein de clubs ont choqué là-dedans, ont pas été en mesure de gagner des matchs importants, Stéphane.
Tout le monde, écoute, Washington, je suis déçu que Washington passe parce que moins 37 de différentiel. Moins 37, je me souviens pas d'avoir vu une équipe à moins 37 faire les séries éliminatoires. Ça, pour moi, il ne méritait pas d'être là. Et puis, Pittsburgh qui finisse au moins plus 5 différentiel, Détroit au moins plus 4, au moins t'es dans les plus. Mais moins 37, c'est terrible. Donc ça, je suis déçu là-dessus. Mais de l'autre côté, je suis content pour Charlie Lindgren. Quelle saison! 50 matchs, il a joué dans 50 matchs dans la saison, une fiche de 25-16, des bonnes statistiques au niveau des moyennes de buts contre et d'efficacité. Wow, surprenant. Il n'y a pas personne qui aurait vu venir ça. Et les Capitals, les boys, hey, c'est pas jeune, là. Ovi, 38. Oshie, 37. Pacioretty, 35. Nick Dowd, 33. Carlson, 34. Nick Jensen, 33 ans. C'est incroyable.
Ben, c'est le fun. Mais, l'âge de ces gars-là, au moins, ça se fait des petites fondues à la maison. Ça ne sort pas d'un bar.
Ben, c'est une très bonne raison. Hey, j'ai pas pensé à ça. Ça, c'est le club le plus, tu t'inquiètes pas, sur la route. Et puis,
Et boy, je pense pas que les Capitals ont toujours eu cette réputation-là. Mais ça,
non.
C'est un autre sujet.
Mais pour finir avec les Caps, écoute, un gros bravo à deux personnes. Je l'ai mentionné, Charlie Lindgren, mais Spencer Carberry, le coach, a fait un job incroyable. De rentrer cette équipe-là dans les séries, wow!
OK, hey, on termine avec Marc-André Fleury qui signe un contrat pour une autre saison avec le Wild du Minnesota. Et j'écoutais son point de presse. Il remerciait le Wild d'avoir la chance d'être encore là, de poursuivre son parcours dans la Ligue nationale de hockey. Le gars de Sorel a fait la job, a été capable d'amener... Je l'ai dit, il vient de Sorel.
Il vient de Sorel.
Puis, non, mais je suis fier. Je trouve ça fier. Le gars est un ambassadeur du hockey. Tu sais, un gars à 40 dents dans la bouche, faire des sourires. C'est le fun, puis en plus, c'est spectaculaire. Je sais pas, Stéphane, un petit mot sur Fleury.
Oh, on sait plus quoi dire sur Marc-André. C'est incroyable. Il va jouer l'année prochaine dans une 21e saison, les gars, à 30. Il va avoir 40 ans l'année prochaine. Wow! Mais il est encore, le gars, éviter blessure. C'est un athlète incroyable, une flexibilité incroyable. C'est un bon athlète. Mais surtout, c'est quoi qu'il garde dans la game? C'est sa passion. Puis bravo, ça va être le fun.
On l'a déjà repêché, puis notre ligue de garage, soit dit en passant. C'est tout comment ça retraite. Simon Olivier, vas-y.
En fait, je suis content pour lui. Je pense que c'est mérité. Puis aussi pour le Wild, je pense que c'est une bonne solution. Parce que le Wild, c'est une équipe qui est très mal prise sur le plan financier. Après la suite des rachats il y a quelques années de Zach Parise et de Ryan Suter, l'année prochaine, c'est encore 15 millions de dead cap, là, de sommes inactives sur le plafond salarial, et c'est cette dernière année-là. Donc, avec le duo Gustafsson et Fleury, on se retrouve avec quelque chose comme 6,25 millions devant le filet au total. Donc, c'est pas... Je pense que Marc-André Fleury, c'est au niveau compétitif, c'est peut-être pas l'adjoint rêvé de la Ligue. Je pense que ses meilleures années sont loin derrière lui. Mais je pense que dans les circonstances, pour le rapport coût-bénéfice, il aurait pas fait mieux ailleurs. Fait que je pense que les deux clans vraiment se sont retrouvés tout le monde fait un bon deal là-dedans, puis Fleury, on peut pas l'aimer. Fait que je suis content pour lui.
Hey, tu me permets une passe sur la palette avant de finir. Choix de chef. Juste un petit chapeau à un joueur repêché au 5e tour. Il y a 2 ans, un ancien des Remparts de Québec, James Malatesta, qui vient de Montréal, marqué 2 buts cette semaine dans la Ligue nationale. Écoutez, là, des choix de 5e ronde qui jouent dans la Ligue nationale 2 ans après leur repêchage. C'est vraiment très rare, fait que chapeau de l'avoir fait avec les Blue Jackets de Columbus.
Ben merci beaucoup, mon cher Alexandre Pratt. C'est déjà tout pour le balado sortie de zone de ce mercredi 17 avril. Simon Olivier Orange, ça fait un plaisir. Merci beaucoup, Simon Olivier.
Plaisir partagé comme d'habitude.
Alexandre, toujours bien le fun. Merci beaucoup, Alexandre.
Ciao.
Stéphane White, merci beaucoup, Steph.
Hey, vive le vrai hockey qui commence, les boys. Bonne semaine.
On va arrêter d'être positif dans une défaite en prolongation. On fera du bien. Bon, ça c'est étant dit. Nous, on se parle vendredi 19 avril prochain. Ça sera un spécial série de fin de saison.